Vous écoutez France Culture.
Un avant-goût de ce que sera la journée de mercredi prochain, 24 heures d'antenne en continu consacrée justement à ce sujet.
Oui Hervé, nous avons commencé dès ce lundi puisque nous avons décidé avec nos collègues des radios francophones publiques de décliner chacun à notre manière la question « Le français est une chance ». Que se passe-t-il au Canada, en Suisse, en Belgique ou en Côte d'Ivoire? Aidés par l'Organisation internationale de la francophonie et Françoise Dost, des RFP, nous allons vous entraîner dans les mille et une métamorphoses du français.
Alors Canada, Suisse, Belgique, Côte d'Ivoire, si j'en crois votre ordre, on commence par le Canada.
Exactement, car là-bas, depuis une dizaine d'années, quand vous allez à Montréal, il est beaucoup question du recul du français. Certains esprits affûtés, fréquentant l'Office québécois de la langue française, estiment que dans 20 ans, le français pourrait devenir une langue minoritaire à Montréal. Aussi, Jean-Philippe Plot a décidé de convoquer chanteurs, humoristes, écrivains, linguistes et même des sociologues pour nous plonger dans les diverses facettes du péril qui pourrait peser sur la langue française au Canada.
Voilà, début de cette semaine consacrée à la francophonie dans Sur les Docs, c'est tout de suite dans le 5 à 7.
Le français est une chance est une série de 4 documentaires des radios francophones publiques. Bonne chance, Good Luck est celui produit par la radio de Radio-Canada et réalisé par Jean-Philippe Plot.
C'est avec un sentiment d'émotion et de fierté profonde que j'ai déposé au nom du gouvernement la politique québécoise de la langue française.
Ça se passait le 26 août 1977. Le ministre du Développement culturel du Québec, Camille Lorrain, déposait la Charte de la langue française, aussi appelée Loi 101, une loi qui faisait du français la langue officielle du Québec. Quelques années plus tard, un jugement de la Cour suprême du Canada invalidait certaines dispositions de la Charte. Et suite à ça, le gouvernement québécois de l'époque, mené par Robert Bourassa, déposait une loi qui amendait la Charte, la Loi 178. Et ça ne s'est pas fait sans opposition.
La session reprenait cet après-midi et dès son arrivée, Robert Bourassa semblait soucieux. La loi 178 est en train de tourner en véritable cauchemar politique. 60 000 personnes qui sont descendues dans la rue à Montréal dimanche, ce n'est pas rien.
En fait, ce n'est tellement pas rien qu'à cette époque-là, il s'agissait de l'un des plus grands rassemblements politiques à avoir eu lieu à Montréal. 25 ans plus tard, sur le lieu même où se déroulait la manifestation, le Parc La Fontaine.
Visiblement, les préoccupations ont l'air tout autres. La question est-elle réglée? Quel est l'état des lieux du français au Québec aujourd'hui? Alors que la question de l'affichage en français dans les commerces revient dans l'actualité depuis quelques semaines ici, j'ai rencontré une quinzaine de citoyens, artistes, linguistes, sociologues, qui, malgré leurs divergences d'opinion sur la question, avaient le désir commun de dire ceci à la langue française. Bonne chance, good luck!
Bonne chance, good luck. Avec
Mathieu Boccoté, Gilles Gagné,
Kim Thuy,
Boukar Diouf,
Paul Carniello, Paul Carniello,
Arthur Comeau,
Jacques-Alphonse Doucet,
Jérôme Landry,
Sandrine Tailleur,
Pierre Curzi,
Denise Bombardier,
Serge Robert alias Mononcle Serge.
Première question, quel est l'état des lieux du français au Québec?
Eh bien, ce n'est pas réjouissant pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que les Québécois, contrairement à ce qu'ils affirment, n'aiment pas leur langue. Je m'appelle Denise Bombardier, je suis journaliste et écrivain. Parce que si les Québécois aimaient leur langue, compte tenu qu'ils sont plus scolarisés qu'ils ne l'étaient dans le passé, eh bien, il ferait un effort pour s'exprimer de façon plus correcte, je dirais, quand il s'agit de parler français. Je ne parle pas de l'accent, encore qu'un accent trop prononcé, ça peut... Et y a pas de... Tous les accents ne sont pas beaux. Moi, je trouve terrible l'accent du sud de la France. J'aime pas ça, je trouve pas ça musical, si vous voulez, mais ce n'est pas une question d'accent. J'ai l'impression qu'on se fiche de bien ou de mal parler, de toute façon, on ne s'en rend plus compte. C'est comme bien ou mal écrire. Moi, quand j'étais petite, j'ai appris que faire une faute en écrivant, c'était pas bien.
1939, l'émission Les Fureurs d'un puriste à Radio-Canada.
Mais une jeune fille m'écrit et me demande de parler de Aura. Elle me dit, j'entends partout Aura de toi, Aura de nous,
Toi, T-O-Y, et R grand aigu, elle l'appelle comme ça, de façon assez amusante, parce que c'est une lettre d'une personne très instruite. Et entre autres, au ras de la mer, le soleil est au ras de la mer. Elle me dit, est-ce que c'est français? Eh bien oui.
J'avais honte des fautes que je faisais. Et si quelqu'un me reprenait parce que j'avais utilisé un anglicisme, j'étais tellement contente. Parce que, justement, je voulais parler une langue la plus correcte possible. Eh bien, de nos jours, c'est plus ça. C'est que la langue correcte, c'est la langue que je parle. Voilà. C'est comme ça qu'on raisonne. Donc, je ne pense pas qu'on est fiers.
Je trouve qu'il y a tellement de stupidité qui se dit sur la langue parce qu'on parle de la langue avec ses émotions, puis avec ses impressions, puis avec son histoire de cas personnel. Et ça, là, c'est exaspérant pour quelqu'un qui cherche à comprendre quelle est la réalité chiffrée d'une langue. Parce qu'une langue, ça s'analyse, ça s'étudie. Je m'appelle Pierre Curzi, je suis... composé de trois tiers, un tiers acteur, un tiers retraité, un tiers homme politique. Je deviens intolérant face à toutes les opinions de gens qui se déchirent le cœur. Foutez-nous la paix avec votre impression qu'on parle mal. Regardez quelle est la réalité. Combien de gens parlent cette langue-là? Quelle est la langue des institutions? S'il y a quelque chose où c'est pire, probablement, c'est ce vieux réflexe de coloniser, de dire « Ah, oh, c'est parce qu'on parle mal que ça va mal. » C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! La vraie réalité, c'est que nous sommes une langue minoritaire confrontée à une langue extrêmement séduisante, intelligente, puissante et culturellement surdéveloppée qui s'appelle la langue et la culture anglaise. On est dans un rapport de deux langues. L'important, c'est cette langue-là, est-ce qu'elle va continuer à exister?
Selon moi, et ça va créer peut-être un peu de controverse, le français n'est pas menacé. Montréal est encore le deuxième plus grand ville au monde. Francophone. On parle de... c'est Paris et il y a Montréal. Je m'appelle Paul Carniello ou Paul Carniello. Je suis auteur-compositeur, travailleur autonome et citoyen du monde. Nous, on est comme à l'envers qu'on regarde les statistiques aussi, parce que les gens qui regardent les statistiques qui disent « ben le français va de mort dans les prochaines 20 ans », c'est ridicule. La français a gagné ici. La loi 101 est une réussite. On ne devrait pas regarder ça comme un échec. Puis maintenant, il y a plus du monde qui comprend et parle français. Mais il y a moins de gens qui parlent français comme langue maternelle. Et ça, c'est une distinction qu'il faut qu'on comprenne bien. On n'existe plus dans l'époque où il y a comme les Anglais et les Français, et c'est la rue Saint-Laurent qui sépare les deux cultures-là. Ils parlent jamais. Ça, c'est pas la vérité. Puis c'est pas la vérité de nos générations maintenant. Et puis, pour la prochaine génération, ça va être même plus mélangé. Mon fils a grandi dans une culture bilingue. Même quand moi, j'ai pas grandi dans une culture bilingue. Et ça, c'est deux anglophones qui ont décidé ça. Tous mes amis anglophones font la même chose. On envoie nos enfants à une école française. Les gens perdent le sens des fois qu'on commence à parler de la menace de la langue française.
Moi, je pense que le français est vraiment en bonne santé comparativement à ce qui a été il y a peut-être 30 ans, 40 ans. Je pense qu'on est en train de développer une langue qui est une langue à part entière. Donc, le français au Québec, c'est le français au Québec et c'est pas le français d'ailleurs. Je suis Sandrine Tailleur, je suis professeure de linguistique à l'Université du Québec à Chicoutimi. Les Québécois, je crois qu'ils sont en train de se développer aussi de plus en plus une fierté plutôt qu'une honte par rapport à la variété de français qu'ils parlent. Puis, je pense que ça augure quand même assez bien pour l'avenir parce qu'on a une norme qui est maintenant au Québec. L'Office québécois de la langue française, justement, travaille très fort là-dessus puis s'est développé beaucoup dans les dernières décennies. Et le fait que maintenant, on est capable de, quand on veut se référer, quand on veut avoir une espèce de c'est quoi la bonne langue, comment dire un élément, on n'est pas obligé d'aller voir ce qui se fait en France. On peut aller direct sur le site de l'Office québécois de la langue française, puis ça vient d'ici, puis c'est fait par des Québécois.
Alors, l'état des lieux du français, je ne serai pas très original en disant qu'il m'inquiète. Je m'appelle Mathieu Boccoté, je suis sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. Et pour deux raisons. D'abord, parce qu'on ne s'inquiète plus collectivement pour le français. On a l'impression que la loi 101 de 1977, qui a pourtant été déconstruite morceau par morceau depuis, eh bien, on a l'impression qu'elle nous protège à jamais, que la question du français n'est plus un problème au Québec, que le français est assuré. Or, nous sommes, je reprends Kundera, ici une petite nation avec une précarité existentielle, mais nous n'en sommes plus conscients. Donc on croit que c'est assuré, et au même moment, Alors que les indicateurs sont pourtant inquiétants, le rapport même au français change. Alors qu'auparavant, on y voyait une langue d'émancipation, une langue d'affranchissement, c'était la langue par laquelle on se connectait au monde, de plus en plus, on la voit comme la langue de la tribu. C'est la langue des Québécois francophones entre eux, mais ce n'est plus la langue par laquelle on accède au monde. Désormais, c'est par l'anglais, exclusivement par l'anglais, qu'on croit véritablement s'universaliser. Donc, on le voit dans le Québec francophone, où on rêve à l'émancipation par l'anglais. Et on le voit surtout à Montréal, où émerge peu à peu une espèce de nouveau peuple multiculturel et bilingue, le peuple montréalais, où le français n'est qu'une langue sur deux et certainement pas la première. Donc je suis assez inquiet et j'ai pas l'impression que ça va pour le mieux.
En général, au Québec, je pense que le français ne se porte pas très bien. Et je pense que le français n'est pas nécessairement menacé par l'anglais. Le français est plus menacé par l'espèce de dialecte que les ados se sont développés avec les textos, entre autres, quand ils s'écrivent des courriels, quand ils se parlent sur Facebook. Je suis Jérôme Landry, animateur à Choix Radio X à Québec. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est pas nécessairement la compétition ou la menace de l'anglais. C'est plus dans la qualité du français, surtout le français écrit chez les adolescents. C'est très sérieux. On a l'impression qu'il s'est développé une espèce de créole québécois chez les adolescents québécois. Puis moi, je trouve pas ça très, très, très productif.
Effectivement, la langue qu'on retrouve dans les textos, c'est pas la même langue qu'on est supposé écrire dans un texte d'école, par exemple. En fait, le danger... Je pense que ce n'est pas nécessairement que les étudiants ne sachent pas écrire leur langue. En fait, le danger, c'est qu'on ne prenne pas la langue des textos pour ce qu'elle est, qui est juste une autre variété. Fait qu'il faudrait, en fait, ne pas nécessairement taper sur les doigts des jeunes qui écrivent des textos d'une certaine façon et que le français dans les textos est tellement mauvais, mais c'est, en fait, de leur faire comprendre qu'il y a une place pour cette langue-là et une place pour une langue plus formelle, donc une langue plus développée et tout ça.
Mettons, il y a 30 ans encore, les francophones du Québec, on était comme bilingues, parce qu'il y avait deux niveaux de langue. Je me souviens, quand j'étudiais au collège, je me disais, dans le fond, on est bilingue. Il y a une manière dont on apprend le français au collège. On appelait ça le français de Radio-Canada. Je m'appelle Gilles Gagné, je suis professeur de sociologie à l'Université Laval. Puis, il y a le français qu'on parle tous les jours, qui était pas loin d'un pidgin, qu'on appelait le joual, mais je veux dire, le français très, avec des illusions solides. On pouvait dire le français au Québec, c'est comme les francophones du Québec sont bilingues. Ils peuvent parler à deux niveaux. Avant ça, c'était celui des prêtres, là, puis des sœurs qui roulaient les R, puis qui perlaient bien. Mais ça s'est atténué, cette dichotomie prononcée. Là. C'est-à-dire, on s'en va vers tout le monde, vers un français à la René Lévesque. Je sais pas si tu comprends qu'il y a un français très localisé, très québécois, plutôt correct du point de vue grammatical.
René Lévesque, 1966.
Moi, je crois très fort à ce qu'on appelle la priorité du français. Comme exemple, j'ai donné ici ceci. C'est que je crois que tout ce qui est l'affichage, les menus, les raisons sociales des entreprises devraient le plus vite possible comprendre qu'il faut respecter le français, que le français doit avoir la première place sur les affiches, sur les menus. Ça n'empêche pas l'autre langue d'avoir sa place aussi, mais de tenir compte du respect qu'on doit à la majorité avant que peut-être un jour la majorité se fâche une fois pour toutes puis dise, ben, ce qu'on nous a fait, on va le faire aux autres.
Ça a fait donc que le français de Radio-Canada a comme dégradé, s'est dégradé un peu. Il est devenu français populaire, mais en même temps, le français populaire... Les deux se sont rapprochés, puis on est moins bilingue qu'on ne l'était quand la langue de l'élite puis la langue du peuple étaient vraiment deux langues différentes, puis les gens pouvaient passer de l'une à l'autre. Donc, dans ce sens-là, ça renforce la langue française.
On est moins bilingue qu'on ne l'était. En tant que société, peut-être, je peux voir le point de vue, parce qu'effectivement, quand justement le français de Radio-Canada a fait son apparition, il a été inventé pour une raison. Parce que justement, il y avait une espèce de besoin, les gens, bon, avaient besoin d'une variété plus formelle qui était propre au Québec, mais est-ce que les gens maîtrisaient vraiment ces deux variétés-là dans la vie? Donc, n'importe qui dans la rue, est-ce qu'il était capable de parler les deux variétés? Ben, j'en doute un peu. Donc, comme société, probablement qu'il y avait un bilinguisme, donc il y avait l'espèce de français plus formel, qui dit français de Radio-Canada, et le français que les gens parlaient tous les jours. Aujourd'hui, qu'on soit moins bilingue, je pense pas, en fait, que les gens sont plus bilingues. Peut-être comme société, on est moins bilingue, mais les gens, individuellement, sont un peu plus bilingues parce qu'ils sont plus capables, justement, de passer d'un registre à l'autre, puis sont capables de maîtriser plus qu'une variété, justement. Et plus qu'une langue, parfois. Mais c'est un peu le même processus cognitif, en fait, maîtriser plusieurs variétés, maîtriser plusieurs langues.
Je pense que le français au Québec est encore très vivant. Je suis Kim Thuy, auteure, un petit peu. quand on marche dans la rue, c'est vrai qu'on pense que le français est défendu seulement par les Québécois, peut-être de souche, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a toute une couche de la génération de la loi 101 qui défendent le français aussi ardemment que les Québécois de souche, justement parce qu'on a eu la chance d'apprendre cette langue-là. Oui, on parle d'autres langues en même temps. Peut-être à la maison, on parle de la langue de naissance, la langue maternelle, mais le français reste la langue d'utilisation de tous les jours. Et c'est devenu vraiment notre deuxième langue maternelle et non pas juste une langue apprise. Et justement, quand j'ai eu une rencontre avec deux Vietnamiennes, on s'est entendu qu'on allait parler en français, parce que c'était la langue qu'on avait en commun.
Je pense que le Québec n'a pas grand-chose à s'inquiéter au niveau de la langue. Je m'appelle Otto Camo du groupe Radio Radio. Je veux dire, la langue, c'est pas juste comme qu'est-ce qui t'entoure, mais c'est aussi la fierté de ta propre culture, puis la force de ta propre culture. Puis, je veux dire, la force est ici en nombre, puis en... Je pense pas que tu peux angliciser le Québec comme dans 20 ans. Même, peut-être 75 ans avec un gros budget, puis comme un gros popstar qui comme capule le mouvement anglicisation, ça se fera, mais je sais pas, moi, si notre population de comme 9000 personnes peut rester française dans une province entièrement anglaise pour 250-300 ans, je veux dire, je pense que Montréal peut faire un autre 20 ans.
Je pense que chez nous, c'est réglé parce qu'on a perdu. On a gagné le peu de droits qu'on a, puis parce que notre population, en Nouvelle-Écosse, on est quoi, 3,5% de population, là, les francophones, c'est pas beaucoup. Là. Je pense qu'il y a plus d'Asiatiques ou d'autres cultures en Nouvelle-Écosse qu'il y a de francophones. Je m'appelle Jacques-Alphonse Doucet de Radio Radio. Alors, tu sais, on a ce qu'on a, on est fiers d'avoir nos écoles. Je sais que sa mère s'est bien battue pour les écoles, mes parents, je pense qu'ils ont voté non, mais c'est pas grave. J'ai quand même été à l'école en français. Je sais pas, c'est jamais terminé parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui veut plus ou qui veut à sa façon. Alors, comme ça, c'est jamais terminé. Puis si à un moment ça s'est terminé, ben là, tu vas soit perdre ta langue ou les gens vont quitter ton pays.
Je ne suis pas sûr que dans 100 ans, on sera encore là pour parler français. Très sincèrement, je n'en suis pas sûre. Je voudrais que vous me disiez non, que vous me donniez des arguments, parce que c'est un combat de tous les jours et je ne crois pas, contrairement à ce qu'on dit, parce qu'on appelle ça des sunshiners. Dans le temps de Mao, on disait qu'il y avait des sunshiners. Ils trouvaient que même la merde en Chine était bonne et belle. Alors donc, on est un peu des sunshiners si on pense que tout ça va de soi.
L'anglicisation du Québec, on ne verra pas ça de notre vivant. Montréal, majoritairement anglophone, un jour, j'ai l'impression qu'on ne verra pas ça de notre vivant non plus. Puis ça dépend c'est quoi Montréal aussi. Est-ce qu'on parle de la ville de Montréal? Est-ce qu'on parle de la grande région de Montréal? Moi, quand je m'en vais dans la grande région de Montréal, c'est drôle, quand je m'en vais à Terrebonne, quand je m'en vais à Sainte-Julie, quand je m'en vais à Boucherville, oui, j'entends un peu parler en anglais, mais la grande région de Montréal, majoritairement anglophone, je pense pas que c'est pour demain matin. Ça semble être une préoccupation très concentrée sur l'île de Montréal, ça, la peur de l'anglicisation de l'île.
Le français, en général, au Québec, se porte bien, sauf dans la région de l'Outaouais et dans la grande région de Montréal. Pourquoi ça nous inquiète, ceux qui se préoccupent de la langue? Parce que ce qu'on appelle la région de recensement de Montréal, là, c'est 3,9 millions de personnes. C'est la moitié de la population du Québec. Et dans cette grande région de Montréal, l'état du français est le suivant. L'état du français ne progresse pas comme il devrait progresser quand on regarde la population du Québec. On est 9 francophones pour un anglophone, alors que l'état de l'anglais non seulement se maintient, mais progresse. Alors que normalement, il devrait se maintenir soit dans les mêmes proportions ou peut-être tranquillement régresser comme dans toutes les langues des minorités dans une majorité. C'est ça, l'état des faits.
2010, le Radio-Journal de Radio-Canada.
La controverse soulevée par le projet de loi du gouvernement Charest sur les écoles passerelles qui permettent d'accéder au réseau scolaire anglais fait ressurgir le débat sur une possible anglicisation de la région de Montréal. Pour certains, le français subit effectivement un recul dans la métropole. Ils en veulent comme preuve les chiffres du recensement de 2006 qui indiquent que la proportion de francophones à Montréal est passée sous les 50 %.
Ça va tellement vite parce qu'il y a des différents phénomènes qui se conjuguent. Trois phénomènes essentiellement. Les francophones ont quitté l'île, les anglophones restent, les allophones qui arrivent s'y installent, et une proportion non proportionnelle est attirée par l'anglais et s'inscrit dans la réalité culturelle anglaise. Donc, l'état du français, c'est que de plus en plus de gens à Montréal sont bilingues. Chez les jeunes, là, ça a atteint des proportions de 78,8% chez les francophones, puis je pense que c'est légèrement plus chez les anglophones. Donc, c'est à peu près 80% des gens qui sont les gens les plus dynamiques dans la cité sont bilingues. Bilinguisme n'est pas un problème. Le bilinguisme institutionnel est une menace extrêmement importante. Et si on n'agit pas d'une façon radicale pour rétablir l'équilibre, il est clair que Montréal va être complètement bilingue et que l'anglais va supplanter le français. Et si on se fie aux courbes des chiffres, ça devrait arriver assez rapidement, vers 2030. Et là, à partir du moment où la langue d'usage est devenue celle de la majorité, là, forcément, les institutions suivent, parce que si la majorité de la population parle dans une langue, bien, il faut leur fournir des services de santé, d'éducation, à tous les services dans la langue, c'est normal.
Il y a peut-être un léger recul du français au Québec, mais au Québec, le français n'est pas en danger. Le Québec n'étant pas Montréal, mais Montréal est une métropole internationale, au même titre que New York, au même titre que Los Angeles, au même titre que Miami. Ça, c'est toutes des villes où il y a des fortes concentrations de langues secondaires, de troisième langue, des quartiers complets. Par exemple, à Miami, où l'affichage est en espagnol, où tu as de la misère à te faire répondre en anglais. C'est le propre des métropoles internationales, ce que vit Montréal actuellement.
Aujourd'hui, avec à l'heure de la mondialisation, c'est presque une formule qui relève de l'incantation, à l'heure de la mondialisation, à l'heure du multiculturalisme, à l'heure de l'hybridation des identités, à l'heure du métissage universel, l'obstination d'une petite nation en Amérique du Nord à vouloir vivre son Amérique en français, il y a quelque chose là-dedans qui relève de l'incompréhension. Pourquoi vous entêtez-vous dans une réserve? Vous avez la chance de participer au continent nord-américain et vous vous enfermez dans une langue qui n'y est pas parlée et qui est encore moins dominante. Pourquoi? Alors là, on a cette espèce de climat idéologique lié à la mondialisation, où on dit en plus aux Québécois, c'est pas capituler au Canada anglais désormais de se convertir au bilinguisme systématique et obligatoire, c'est simplement accepter la logique de la mondialisation. Voulez-vous vous fermer sur le monde? Voulez-vous vous fermer aux autres? Voulez-vous vous fermer à l'autre? Vous ne voulez pas? Alors changez d'idée et puis acceptez cette règle du bilinguisme obligatoire. Puis on en revient à cette question du rapport à l'anglais. Évidemment que mieux c'est bien de parler anglais, espagnol, mandarin, portugais, on peut multiplier les langues, c'est très bien de parler, et c'est être polyglotte, c'est une chance dans la vie. Mais la question linguistique au Québec, c'est peut-on vivre dans cette société, progresser d'une classe sociale à l'autre dans cette société, réussir dans cette société, d'abord en français, ou est-ce que dès qu'on quitte, appelons ça les classes populaires et les classes moyennes inférieures, pour réussir minimalement sa vie, doit-on se convertir au bilinguisme au quotidien? C'est ça la vraie question linguistique au Québec.
On a un drôle de phénomène là, où l'anglais devient un pidgin international dont on a besoin parce qu'on ne prend pas soin, on ne s'occupe pas d'inciter les immigrants à apprendre le plus vite possible le français. L'autre fois, j'arrive à Ottawa. Ottawa, la capitale du Canada, bilingue, par-dessus ses oreilles. Il y avait un chauffeur de taxi. Je lui demande, est-ce que vous savez si c'est bien long de se rendre à l'université d'ici? Il me regarde, les bras, il tombe, il dit « Don't you speak English? » Genre, qu'est-ce que c'est ça? Il était désarmé, le pauvre homme, parce qu'il y avait le turban des Sikhs, puis son attitude, c'était « Tu dois bien voir qu'en tant qu'immigrant, le mieux que je peux faire, c'est 3-4 mots d'anglais. » Tu sais, il me suppliait, là, tu sais, « Sois gentil avec moi. Tu vois bien que je peux pas parler français, tu sais. » C'est curieux, ben non, mais tu dis très bien, je vais l'accommoder.
Ben moi, je pense que le français, si on ne l'impose pas, ben il va finir par disparaître. Puis si on y tient, ben il faut l'imposer, c'est tout simplement ça. Je m'appelle Serge Robert et je suis plus connu sous mon nom de scène, Mononcle Serge, et je fais de la musique barbare. Si on laisse les gens dire, tu sais, apprenez la langue que vous voulez, travaillez dans la langue que vous voulez, allez à l'école dans la langue que vous voulez, c'est clair que c'est des mesures qui vont jouer au détriment du français et en faveur de l'anglais. Et puis, bon, ça se mesurera pas au bout de 3 ans, mais tu sais, avant que la loi 101 soit en application, il y avait une proportion hallucinante là, d'allophones qui allaient à l'école anglaise. Et puis, ben, on les comprend, ils arrivent ici, ils sont en Amérique du Nord. S'ils étudient en anglais, ben, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils peuvent aller n'importe où, aux États-Unis, au Canada. Puis s'ils sont seulement compétents en français, ben, ils peuvent rester au Québec. Puis bon, ça leur sert pas beaucoup ailleurs. Écoute, si on tient au français, c'est ça la question de base, ben, il faut l'imposer.
Veux pas, l'identité, c'est un rapport de force. Quand tu as la force, tu la gardes. Parce que si tu la perds, t'es foutu. Alors, tu travailles pour garder la force. Et pour garder la force, ben, il faut utiliser la force, des fois. On a beau dire, allez-y, faites du lobbying soft. Pour rester majoritaire, il faut utiliser parfois la force. Je ne parle pas de force physique, mais forcer les gens. Je m'appelle Boukar Diouf et je suis conteur et biologiste. C'est important d'avoir quelque chose de solide, mais de béton, puis de ne pas laisser des trous là-dedans. Parce que pour moi, une société, c'est comme un barrage de castor. Le castor, il construit son barrage, puis le solidifie. Le moindre trou là, puis tout s'en va dans le torrent. Alors, il y a quelqu'un qui disait, les lois, c'est comme les digues aussi. Tu ménages un petit trou, puis tout fout le camp. Alors, je pense que le rempart pour le Québec, si on veut parler encore français, dans une 20, 40, 50 ans, il faut parler la langue avec fierté d'abord, inciter les jeunes à l'aimer. Surtout, ça c'est la première étape, mais deuxième étape, c'est de protéger de l'assimilation. Et pour ça, il faut garder l'œil ouvert, tout le temps. Puis avoir les couilles de le faire. Parce que bien des politiciens arrivent et disent « Ah, on va travailler sur la loi 101 », mais ils n'ont pas les couilles de le faire. Excuse-moi pour le terme, mais c'est ça. Une paire de couilles, c'est comme un parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase. C'est ça. Excuse-moi.
Ben, moi, je pense que le français au Québec n'a pas besoin d'être sauvé. Moi, je pense que ça va bien parce que moi, en tant que linguiste, ça fait longtemps que j'étudie quand même cette variété de français-là. Puis c'est en fait une variété de français qui évolue comme n'importe quelle autre langue. Toutes les évolutions qui se passent, et même si la façon de parler des Québécois n'est pas nécessairement conforme au français hexagonal ou au français de France, tout ce qu'on retrouve en français québécois est en fait normal d'un point de vue linguistique. C'est une évolution vraiment typique de la langue. Et puis, tant qu'une langue évolue et tant qu'une langue se transmet de génération en génération, c'est pas une langue qui est en danger. Vraiment pas. Même moi, en tant que linguiste, la loi 101, c'est sûr que je comprends son utilité, sauf que moi, c'est pas quelque chose que je vais soutenir nécessairement, parce que pour moi, le bilinguisme, c'est ça qui fait évoluer les langues. Puis le bilinguisme, c'est prouvé cognitivement, c'est extrêmement positif. Donc, je pense pas que le bilinguisme va vraiment venir mettre le français en danger. Puis le français, comme langue à part entière, le français québécois se porte très bien.
Je trouve ça humiliant, moi, d'avoir des lois, de se dire... Ma langue est tellement faible que ça me prend une loi pour la protéger. Moi, je me sens pas complexé vis-à-vis les anglophones. Et j'ai toujours trouvé ça un peu perdant que de dire on va devoir se protéger avec des lois. Là. Je pense qu'ils dramatisent la situation plus qu'elle ne l'est. On parle souvent, par exemple, à Montréal, ce qui a l'air à titiller bien des Québécois francophones à Montréal, c'est le fameux affichage anglophone. Les commerces, Second Cup, un nom anglophone... Il y a quelques exemples comme ça. On dirait quoi, nous autres, si les Américains traduisaient l'expression « Cirque du soleil » à Las Vegas? Comment on réagirait, nous autres, au Québec, si demain matin, sur la strip à Vegas, c'était écrit « Circus of the Sun »? On réagirait comment, nous autres? Nous, on réagirait pas bien si les anglophones nous demandaient d'angliciser les noms de nos commerces à nous autres, là. Pourquoi toujours être au combat, là? Pourquoi on est toujours en train de se placer dans une situation de combat et de prouver qu'ici, c'est le français? On peut-tu prendre un break de temps en temps de ça? Je m'excuse d'expression. Mais est-ce qu'on peut prendre congé des fois du combat aussi, de l'éternel combat des francophones pour faire respecter leur langue? Je veux dire, à un moment donné, il y a une limite à toujours combattre et à toujours faire passer les idéologies avant la vraie vie. Là, à un moment donné, il faut prendre congé de ça aussi, je pense, là.
Ben, encore là, méconnaissance complète de la réalité. C'est une méconnaissance et j'enrage de voir à quel point les gens parlent à travers leur chapeau. ce qu'on appelle la marque de commerce, c'est protégé par une entente internationale qui relève de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas franciser les marques de commerce. C'est une entente internationale dont le Canada est signataire et dont nous sommes forcément les signataires aussi. Ça, c'est la première chose à dire. La deuxième chose, c'est... bien sûr que le Cirque du Soleil a gardé le nom du Cirque du Soleil, puis qu'il n'y a pas... Tu sais, on ne voudra pas traduire Coca-Cola, là, mais la loi, ce qu'elle dit dans ses règlements et ce qu'elle devrait dire dans un article de loi, c'est, mettons au moins un terme générique. Dites-nous que quand vous vous appelez, je ne sais pas, moi, Canadian Tire, là, un nom affreux, vous ne pouvez pas traduire le pneu canadien, c'est affreux comme nom, mais... Est-ce que c'est possible que vous nous disiez que c'est un magasin général, tu sais, ou enfin, vous trouverez bien ce que vous voulez, mais de telle sorte que les gens qui arrivent comprennent qu'au-delà des marques de commerce, puisqu'on est dans le commerce, il y a aussi une identité qui s'inscrit partout. Alors, c'est ça. Mais ce que les gens ignorent, c'est qu'il y a des compagnies, par exemple, qui ont fait l'effort intelligent de complètement franciser et qu'elles y ont gagné.
1962, l'émission Métro Magazine à Radio-Canada.
La langue française gagne du terrain à Montréal, dans des milieux où elle était jusqu'ici particulièrement ignorée, pour ne pas dire méprisée. De grandes maisons commerciales et financières et diverses industries, en tout une dizaine, ont demandé à l'université d'organiser des cours de français spécialisés pour leur personnel administratif. Le service de l'extension de l'enseignement, en collaboration avec la faculté des lettres, a répondu en organisant des séries de cours qui ont commencé hier. Les premiers élèves étaient une vingtaine de membres de la haute direction de la maison Steinberg.
Tous les Québécois font de temps en temps l'expérience de cette langue que nous portons désormais comme un fardeau. Alors j'entre dans une boulangerie, c'était il y a quelques semaines en janvier, et il y a deux filles à la caisse, et l'une d'entre elles dit « Tu cesseras de mettre de la musique en français, ça fait qu'elle t'aime. » Et sa collègue dit « Ah oui, t'as raison, excuse-moi. » Et là, j'ai été frappé, parce que je me suis dit « Voilà une société très étrange où la langue nationale fait qu'elle t'aime, et lorsqu'on dit ça à quelqu'un, la personne s'excuse. Tu as raison, je m'excuse, je ne le ferai plus. » Alors, ça en dit quand même beaucoup sur l'évolution, entre guillemets, des mentalités au Québec par rapport aux Français. Mais ça me rappelle aussi une autre anecdote. Dans les cafés, dans les restaurants et ainsi de suite, c'est une scène de la vie quotidienne désormais. Des francophones, des Québécois de souche, comme on disait autrefois, se parlent entre eux et passent en anglais, soudainement. Et là, on se demande, mais que font-ils? Et moi, j'ai une hypothèse à ce propos. C'est ce que j'appelle le nouveau chic montréalais. Il y a aujourd'hui un nouveau peuple qui émerge au Québec. Ça m'apparaît évident à cause des transformations démographiques de Montréal, à cause de l'influence du multiculturalisme idéologique, à cause de l'influence du bilinguisme, parce que la cause souverainiste se porte très mal et avec elle la référence au Québec d'abord. Pour mille et une raisons, j'ai l'impression qu'on assiste en ce moment à la désaffiliation de Montréal par rapport au reste du Québec. Et dans cette nouvelle identité montréalaise, multiculturelle et bilingue qui émerge, la culture québécoise historique n'est qu'un élément parmi d'autres dans un nouveau patchwork identitaire. Et à partir de là, eh bien, les Québécois francophones eux-mêmes acceptent ces nouvelles règles du jeu et les Québécois francophones eux-mêmes, finalement, se mettent quelquefois à se parler en anglais entre eux parce qu'ils y voient non pas une régression, non pas une forme de démission. Qu'est-ce qu'ils y voient? Bien, tout simplement une ouverture au monde. La rhétorique de l'ouverture au monde ici masque bien mal le retour à la surface d'un vieux mépris de soi des Québécois francophones.
Ça m'arrive régulièrement, surtout avec ma blonde, mais ça m'arrive aussi avec des amis qu'on va parler ensemble, on va discuter ensemble, puis à un moment donné, ben on part puis on se met à discuter en anglais. Ça va durer 2-3 minutes pour le plaisir, pour le pratiquer peut-être aussi, peut-être pour se rendre compte que oui, je suis capable de parler en anglais un peu aussi. Puis je te dirais aussi, je pense que c'est in de parler une autre langue. Tu regardes les Parisiens, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. Bon, des fois, peut-être, c'est un petit peu déplacé, c'est exagéré, mais c'est in. Oui, bonjour, je suis Sébastien Larochelle. C'est important, puis c'est une notion de culture aussi, de dire, bon, je parle pas juste français. Mais la majorité du temps, quand je le fais avec des amis, c'est par plaisir. Hein. Par plaisir, puis aussi, il y a peut-être un petit peu de glamour là-dedans, là, tu sais, de dire, ah, je parle en anglais un peu, là, c'est intéressant. Des fois aussi, ça peut être plus rapide, là. Tu sais, je communique avec ma blonde, on s'envoie des textos,
bien, on les écrit en anglais. Ça prend deux fois moins de temps, deux fois moins de mots. Des fois, ça nous évite d'envoyer deux, trois messages. Des fois, ça peut simplifier les choses aussi.
Mais là, on parle d'amis francophones et de ta copine qui est francophone.
Effectivement, là, on parle vraiment d'amis. Je dirais que 90% de mon entourage est francophone de souche. Puis ma copine, elle vient de l'Abitibi. Il n'y a pas plus francophone. C'est comme les gens de Saguenay. Là. C'est des gens qui sont très à cheval là-dessus. Puis on est tous francophones. On a tous été élevés dans un milieu francophone, mais on le fait par plaisir.
C'est un courant fort et ça existe. Est-ce que vous savez que moi, en France, mes amis dans le monde intellectuel, des écrivains, des éditeurs, des politiques, ils me parlent en anglais maintenant, mais ce sont des Français. Ils adorent ça. Et si je veux avoir une conversation, parce que là, il y en a un couple, je les ai invités en Floride avant Noël. Ils sont venus. Il y a été grand patron de chaîne. Ils sont arrivés en Floride, j'ai découvert qu'ils parlaient pas. Il dit, on comprend pas l'américain qui se parle ici. Mais tu sais, on n'est pas en Caroline du Sud, là, on est en Floride et tout. En fait, ils parlent pas l'anglais. Et c'est la même chose ici. Mais moi, je vais vous faire une analyse différente de votre côté là-dessus. Je suis née à Montréal, moi. Hein? Et j'ai appris l'anglais. J'avais 2 ans et demi, 3 ans. Il paraît que je disais, il y avait un petit garçon à côté de chez moi. Et on jouait dans les carrés de sable. Et je disais, Jim, parce qu'il me lançait du sable, Jimmy, you're a bad boy. On avait 2 familles d'anglophones. Moi, j'habitais juste à côté. Ils ne parlaient pas un mot de français. Mais moi, j'ai entendu donc de l'anglais très jeune. Eh bien, c'est vrai que je me suis rendu compte que quand j'étais en France, par exemple, à l'époque où on ne parlait pas l'anglais, où ils ne truffaient pas les mots d'anglais. Quand j'ai fait, par exemple, les années 70, j'habitais là, après ça, dans les années 80, je me rendais compte qu'à un moment donné, j'aimais entendre de l'anglais. Parce que l'anglais, ça fait partie de ma mémoire affective. Et c'est pour ça que je vous dis, Bocoté en fait une analyse. Je comprends l'analyse qu'il fait, et probablement que je le suivrai, on serait à peu près d'accord là-dessus. Mais il y a quelque chose de plus profond encore chez les Montréalais, entre autres. Parce qu'en dehors de Montréal, c'est pas comme ça. Mais c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on a emmagasiné depuis qu'on est tout petit. Nous, on entend de l'anglais. Et quand on n'entend pas de l'anglais durant longtemps, on est un peu dépaysé.
Moi, ce que j'avais remarqué, c'est le Québécois qui regarde l'Africain en pensant que l'Africain, lui, ne conjugue pas ses verbes. Et ça, j'ai appris ça ici. Il y en a toujours un qui te dit « toi vouloir ». Je pense qu'il y a Tintin au Congo qui a un effet là-dedans. « Toi vouloir faire ça ». Puis, j'ai dit à une madame à un moment donné, « Excusez-moi, madame, où est-ce que je peux appeler un taxi? C'était dans un Sobeys. » Et la dame, elle part avec l'idée qu'elle ne peut pas comprendre mon français. « Où est-ce qu'on peut trouver un taxi? » Elle dit, « Je ne comprends pas. » « Un taxi. » Elle me dit, « Ah, taxi. Autre porte, téléphone beige, ligne directe. » Mais là, il criait ça, là. Là, j'ai dit, « OK, premièrement, madame, je ne suis pas sourd. Puis deuxièmement, vous pouvez conjuguer vos verbes, là. J'ai étudié le français. Excusez-moi, là. » Mais c'est ça, ça m'avait fessé beaucoup. Mais avec le temps, on devient comme tout le monde. Hein. Moi, je vais au Sénégal aujourd'hui, puis les gens me disent, « Mais de quoi tu causes ? » Ma sœur, des fois, je me lève, puis je dis, « OK, là, je m'en vais en ville. » Puis ma sœur se lève, puis me dit, « Bouka, est-ce que tu es sûr que tu as fait un doctorat ? » Parce que vraiment, là, ton niveau de français est tellement horrible. « Je m'en vais. Je m'en vais. C'est quoi ça, je m'en vais ?»
Et vous répondez quoi à ce moment-là?
Ben, je réponds que je ne suis plus africain à 100%. Excusez-moi, mais j'ai passé 20 ans dans le bas du fleuve. Alors, je me suis approprié aussi une partie de l'accent des gens sur place. Hein. C'est ça, la francophonie. C'est un ensemble d'accents.
Souvent, les gens me demandent pourquoi chanter en français. Puis moi, j'aimerais ça retourner la question. J'aimerais ça demander pourquoi pas. Puis les Québécois, Québécoises, ils aiment ça, les accents. T'sais, on n'a pas peur des accents. Puis oui, j'utilise dans ma faveur des fois. T'sais, les gens m'avaient dit dans le passé que les accents sont charmants, que ça donne quelque chose à ta musique. Pour moi, la décision, oui, il y avait un côté politique. Oui, il y avait un côté juste pour faire chier aux angry anglo du ouest, du Montréal, de l'ouest de l'île. Oui, il y avait un côté pour fortifier le lien avec la culture francophone ici. C'est pour toutes ces raisons-là. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai l'impression que... que je vais jamais être vraiment considéré comme Québécois, vraiment, parce que je suis anglophone. Tu sais, c'est pas assez que je chante en français. Ça, c'est juste un... Ça fait une partie de démarche. C'est comme je suis une moitié converti, parce que si tu me demandes pour la fierté de la langue française, ou, tu vas pas aimer mes réponses. Tu sais, les gens aiment pas mes réponses parce que... Tu sais, je manque la fierté. Tu sais, je suis pas fier des Québécois. Je suis pas fier de ma langue adoptée. C'est pas ça. Puis, tu sais, les gens sont un peu déçus. Ça, je sais pas, tu sais, ça travaille dans mon faveur, mais des fois, ça marche pas dans mon faveur. Je sais pas.
Pourquoi chanter en joual? Ben, d'abord, moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, la question, c'était un peu pourquoi chanter en français aussi. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'écoutais de la musique anglo-saxonne, comme à peu près tous mes camarades de classe. Puis, évidemment, quand on commence à jouer de la musique, on souhaite faire une musique qui est semblable à celle qu'on aime. Donc, j'imaginais ça en anglais au départ. Puis, j'ai commencé à vouloir faire de la musique en français sous deux influences. D'abord, j'avais un frère plus âgé que moi, un peu, qui a commencé à écouter de la musique québécoise. Et puis, j'ai eu mes cours d'histoire en même temps, en secondaire 4. Puis dans les cours d'histoire, j'ai réalisé que la position qu'on avait en Amérique du Nord était vraiment exceptionnelle. C'était une espèce de miracle que la langue ait survécu comme ça pendant 200 ans et puis qu'on n'a pas été assimilé par les Anglais, etc. Puis ça m'a donné envie de participer à ça. Sinon, le joual, c'est simplement que au fil des années, je me suis rendu compte que c'était... comment dire? Il y a comme une émotion dans le joual. Tu sais, moi, quand j'étais petit, autour de moi, c'est comme ça que les gens parlaient. J'allais à l'école, les gens parlaient comme ça. Puis, retrouver ça dans la musique, dans des textes, dans des... Il y a quelque chose là-dedans qui vient me chercher. Puis quand je chante comme ça, il y a quelque chose qui est naturel chez moi, puis que je ressens pas de façon aussi naturelle quand je chante en bon français. Ouais, fuck ceux-là qui disent qu'on parle mal. Mais c'est une espèce de cri, cette chanson-là. Je sais pas, ça vient. Mais, tu sais, je parlais tout à l'heure du fait que quand j'entends du joual, tu sais, il y a une émotion, il y a quelque chose de. Ceux qui disent qu'on parle mal, puis qui ont une espèce de mépris pour le joual, je trouve que c'est une espèce de forme de haine de soi-même, peut-être le terme est fort, là, mais disons, pour moi, ça relève un peu de ça, tu sais, puis de mépris de ce qu'on est, finalement, ici.
2012, l'émission « Plus on est de fous, plus on lit » à Radio-Canada.
Nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau Kim Thuy, écrivaine née le 18 septembre 1968 à Saigon, au Vietnam. Ouais, pas tant que ça. En 1978, sous le coup du régime communiste, qui a pris le pouvoir 3 ans plus tôt, vous quittez le Vietnam par un bateau avec votre famille. Vous serez accueillis d'ailleurs dans un camp de réfugiés en Malaisie, avant de venir vous installer au Canada, à Granby, où vous grandissez en apprenant le français, évidemment.
Pourquoi est-ce que j'ai écrit en français? Mais c'est parce que je ne maîtrise aucune autre langue. J'ai pas d'autres outils. En fait, même le français, je ne possède pas la langue française. Je ne maîtrise pas la langue française. Puis j'ai l'impression que plus je l'apprends, moins je la maîtrise. Plus je suis mêlée dans les prépositions, plus je suis mêlée dans les genres et tout ça. Donc, mais ça reste que c'est le seul outil que j'ai. Et aussi, vraiment, par amour. Quand on écrit en français ou quand on écrit dans une langue ou dans une autre, c'est une question de choix, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui choisissent d'écrire directement en anglais. Par exemple, des auteurs chinois ou même des auteurs indiens et tout ça, ils vont choisir directement l'anglais comme première langue au lieu de faire traduire leur livre après. Mais dans mon cas, je ne crois pas que je serais capable d'écrire dans une autre langue. Tout simplement, de un, parce que je vis dans un environnement francophone. Je parle le français à la maison. Et aussi, c'est une langue qui me vient du ventre ou du cœur. Je ne sais pas c'est où le plus profond des deux, mais bon, en tout cas, ça vient de là et non pas de la tête.
Moi, je me sens plus dans le côté francophone. Mais aussi, les médias, télé, tout ça, c'est plus côté anglophone. Mais quand je suis chez nous, je parle français. Le monde me dit tout le temps que je te parle en français ou en anglais. Parce que j'ai un accent anglais quand je parle en français. Mais quand je parle en anglais, j'ai un accent français. Alors...
Comme le monde entend l'anglais quand on parle. So, je pense que les gens ont tendance à nous attribuer à une culture anglophone. Mais si je parle comme un anglophone, c'est différent twist sur la chose. Tu vois ce que je veux dire? So... Pour moi, on est parti d'une culture francophone, mais c'est juste, j'ai plus développé de liens avec le monde anglophone à Montréal qu'en Nouvelle-Écosse. À cause qu'en Nouvelle-Écosse, c'était vraiment comme isolé dans une communauté francophone qui est comme à la défense de sa culture type FL. Après, comme c'est des centaines d'années de vivre d'une certaine façon dans une certaine communauté, ça devient comme renformer sur soi un peu. Puis c'est sûr qu'il y a de l'influence de l'extérieur, mais en même temps, c'est la façon. Les villages acadiens sont assez comme. C'est interwoven, c'est tight. Tandis qu'à Montréal, je vis beaucoup plus en anglais à Montréal qu'en Nouvelle-Écosse.
Est-ce que ça m'arrive de me faire servir en anglais? Oui, dans certains restaurants chinois encore. Et ailleurs, il y a des dépanneurs. Et je ne parle qu'en français. Et quand je pars à la fin, et je le dis, avec beaucoup de gentillesse. How long have you been here? And you should learn French. Et là, ils me disent, ben, no time, no time, no time. Alors, no time et pas de moyens, parce que ça aussi qu'il y a l'accès. Mais il faut continuer de faire ça. Et vous savez, quand on a fait ça depuis l'âge de 16 ans, d'exiger de parler français, vous savez qu'à un moment donné, on est fatigué de ça? Il y a un âge pour tout. Et là, ça, disons que c'est fatigant. Disons que c'est une humiliation superficielle qui n'est pas agréable.
J'ai sorti un jour, puis j'étais dans une dépanneur, puis quelqu'un m'avait servi en anglais tout de suite. Puis j'étais comme, non, il faut qu'on danse le danse. Il faut qu'on parle pour comme deux minutes, puis réaliser que, ah, c'est deux anglophones, on peut switcher en anglais, puis c'est correct. Puis même moi, j'étais un peu insulté. Puis j'étais comme... Sérieusement, tu sais, pourquoi t'as pas commencé en français, là, tu sais, comme c'est comme ça au Québec? J'ai réalisé que non, ben, regarde, tu sais, il y a des communautés beaucoup plus allophones, beaucoup plus anglophones. Il y a des communautés espagnoles. Ils devraient avoir le droit, t'habites dans le quartier latin, de parler aux gens en espagnol ou portugais, tu sais. Parce que c'est embarrassant, tu sais. So, oui, ça m'avait dérangé, mais maintenant, je sais pas, je suis pas trop touchy.
Est-ce que ça m'arrive de me faire servir en anglais ici à Montréal? Non, ça, moi, je suis très intransigeant là-dessus. Moi, là, il va falloir que tu me démontres mathématiquement que tu n'es pas capable de parler français pour que je te parle en anglais. Puis je parle l'anglais. Quand j'arrive, la première chose que je fais, tu me parles en anglais, je te réponds en français. Il faut vraiment que je m'assure que tu ne parles pas un mot de français. Mais même si tu le baragouines, tu es juste capable de dire bonjour, ça va se passer en français. Puis ça, il faut le faire parce que pour moi... L'assimilation, c'est quand tu commences à dire « je comprends l'anglais, donc je n'ai pas besoin de le laisser baragouiner ». Quand on commence à dire ça, c'est qu'on est foutu. Il faut leur dire « tu le baragouines ? Ben baragouine-le ». Alors, on est à Montréal, à ce qu'on sache, le Québec, c'est une province francophone, une nation francophone. Alors donc, il faut vraiment être fermé 100% pour ne pas pouvoir baragouiner le français.
Dernière question. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver à la langue française au Québec?
Le pire qui pourrait arriver à la langue française, c'est ce qui est en train d'arriver chez un certain nombre de gens. C'est de croire que nous, on a inventé une autre langue qui est très distante de la langue française et que donc on doit continuer de s'éloigner de la langue française. Parce que s'éloigner de la langue française, c'est se tribaliser. Comment il se fait que la très grande majorité des francophones de la planète ou des gens qui parlent le français, on les comprend, et qu'une proportion importante de gens qui parlent le français dans le monde ne comprennent pas le français qu'on parle dans les rues quand ils débarquent à Montréal. Ça, c'est plus que troublant, c'est douloureux.
La pire affaire qui pourrait arriver à la langue française au Québec, qui est, à mon avis, en train d'arriver aux langues, c'est le remplacement du sens par la fonction. C'est le titre d'un ouvrage, « The Supersedure of Meaning by Function ». Comme par exemple, le langage de l'informatique, coller, cliquer, copier, fermer, dossier, ouvrir, je ne sais pas quoi, imprimer, je sais pas. Tous les codes, tous les mots qui s'aplatissent vraiment parce qu'ils sont juste le nom d'un bouton qui a une fonction. Puis on peut se mettre à parler purement fonctionnel. Puis peut-être c'est à partir de là qu'il faut penser qu'est-ce qui peut arriver aux langues en tant qu'elles ont déconstruit d'héritage, d'histoire, d'une poésie, d'une culture, qu'elles ont une charge référentielle où à chaque fois que tu parles, dans le fond, tu dis toujours plus que ce que tu dis. Et célébrer la parole en parlant, tu sais, on voit ça encore beaucoup chez les gens qui viennent de sociétés africaines qui sont encore dans l'oralité. Les gens sont partis du village où tout se passe dans l'oralité. C'est, comment il s'appelle? Boucard Diouf, quoi. C'est un rapport à la parole qui est, c'est pas la fonction, là. C'est un rapport à la parole, c'est un mode d'être, c'est un... Il l'a parfaitement traduit en français, je veux dire, puis il l'a parfaitement adapté au Québec, puis il nous fait le coup au Québec pour dire, ben, au Québec, dans ce que vous parlez, il y a de l'oralité négligée. Je ne sais pas si tu comprends. Et là, il va loin au-delà de la fonction de la langue. Il la fait parler. Et ça, ça se perd dans toutes les langues. Tout le monde s'aplatit sur la fonctionnalité.
Ben moi, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que je pense qu'on gagnerait beaucoup à savoir que ce n'est pas juste le présent et le futur qui est important. Il faut retourner dans le passé. Alors, la langue, ce n'est pas juste un outil de communication. C'est plus que ça. C'est pas... C'est la langue, il y a des odeurs là-dedans. Il y a un passé, il y a un présent, il y a une nostalgie, il y a des liens de famille, il y a de la génétique. Et tout ça, on ne peut pas se l'approprier en se concentrant juste sur le présent. Moi, je suis convaincu de ça.
Le français québécois, en fait, qui devient une langue purement fonctionnelle, moi, j'y crois pas, parce que c'est impossible qu'on ait une langue qui est purement fonctionnelle. La langue, le français québécois évolue d'une façon complètement naturelle. Tant que les gens l'utilisent, il y a aucun risque, en fait, que la langue s'en aille justement vers quelque chose de purement fonctionnel. Certaines personnes vont l'utiliser de façon plus créative que d'autres, mais je pense que c'est vraiment plus individuel que quelque chose de linguistique. Et la langue a on a tout ce qu'il faut dans notre langue, en fait, pour qu'elle soit complètement créative et que ça ne soit pas seulement fonctionnel.
French is forever, c'est ce que je veux dire, non? Là, je pense pas que vous avez peur de votre langue. Si vous ne vous inquiétez pas about it, là, ça va être all great. Là. C'est comme le... Les good times vont happener.
Yeah, c'est ça. Juste bonne chance, puis hopefully vous still understand dans quelques years.
Bonne chance, good luck est un documentaire produit en collaboration avec les radios francophones publiques. Chef de contenu, Daniel Leblanc. Recherche, Marie-Michel Giguère. Réalisation, Jean-Philippe Plot. Un merci tout spécial à Mathieu Bock-Côté, Denise Bombardier, Paul Carniello, Pierre Curzi, Boucard Diouf, Gilles Gagné, Jérôme Landry, Sébastien Larochelle, Radio-Radio, Serge Robert, Sandrine Tailleur et Kim Thuy. Cette émission est une production de la première chaîne de Radio-Canada.
Voilà, et demain, suite de la semaine consacrée à la francophonie sur les docks, un documentaire proposé par la radio-télévision suisse, Rêver le français en Suisse.